VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonheurs années 2018, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 18h30 temps universel du lundi 1er janvier 2018 au sommaire. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta annonce une loi d'entente nationale, objectif exempté de poursuite tous ceux qui sont impliqués dans une rébellion armée et qui n'auraient pas de sang sur les mains. Arrestation au Burkina Faso d'un colonel de l'armée pour tentative de déstabilisation. La secrétaire générale de la francophonie dénonce la violence contre les fidèles chrétiens qui manifestaient contre le président Kabila hier en République démocratique du Congo. Et puis en Iran, 12 personnes ont trouvé la mort dans les manifestations anti-gouvernementales qui secouent le pays depuis la semaine dernière. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta annonce la création d'une loi sur l'entente nationale. Il l'a fait savoir dans son discours de nouvel an. Si les contours de ce projet de loi ne sont pas encore connus, Ibeka trouve qu'il créera les conditions d'un apaisement, d'une réinsertion des combattants qui déposeront les armes et l'exonération de poursuite de tous ceux qui sont impliqués dans une rébellion armée. Plus de précisions à Bamako avec Kassim Traoré.
En se basant sur les recommandations issues de la conférence d'entente nationale qui s'est tenue en mars et avril 2017, Ibrahim Boubacar Keïta propose un projet de loi sur l'entente nationale. Il trouve que la charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation issue des conclusions de la conférence d'entente reconnaît les causes profondes de la crise que le Mali a connue depuis son indépendance. Ibrahim Boubacar Keïta.
La charte propose des mesures spéciales de cessation de poursuite ou d'amnistie en faveur de certains acteurs de la rébellion armée de 2012. Suivant ces recommandations, je ferai initier dans les semaines qui viennent un projet de loi sur l'entente nationale. Ce texte proposera notamment l'exonération de poursuite de tous ceux impliqués dans une rébellion armée, mais qui n'ont pas de sang sur les mains. Des mesures également d'apaisement pour l'accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues. Un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s'engageront publiquement à renoncer à la violence.
Au président malien d'ajouter que son projet de loi n'est ni un aveu d'impuissance, ni une prime à l'impunité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le colonel Auguste Denise Barry, ministre de la Sécurité sous la transition, a été arrêté vendredi dans le cadre d'une enquête. On lui reproche d'être mêlé à une tentative présumée de déstabilisation du pouvoir. Yacouba Ouédraogo.
Les sources sécuritaires se contentent de confirmer que le colonel Auguste Denise Barry a été arrêté dans le cadre d'une enquête. D'autres sources, selon le journal en ligne lefaso.net, ajoutent qu'il est soupçonné d'être mêlé à une tentative présumée de déstabilisation du pouvoir de Roch Kabore. Dans le cadre de cette même enquête, l'ex-chef d'état-major adjoint de la gendarmerie, le colonel Serge-Alain Ouédraogo, a été entendu, puis relâché dimanche. Éphémère ministre délégué chargé de la sécurité sous Blaise Compaoré, le colonel Barry avait rempilé au poste en tant que ministre plein sous la transition. À l'époque, certains le présentaient comme le cerveau de l'homme fort du moment, l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida. Accusé de plusieurs coups tordus sous la transition au profit de son mentor Zida, le président Michel Kafando a été obligé de l'éjecter du gouvernement. Dans son retranchement, le colonel Barry a créé, avec certains de ses compagnons, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, une sorte de think tank basé à Ouagadougou.
La nouvelle monnaie mauritanienne est entrée en circulation. L'oukiya améliorée a obligé de nombreuses banques à ouvrir exceptionnellement en cette nouvelle année. Plus de détails avec Raissa Gironda.
Cinq semaines après l'annonce du président Mohamed Ould Abdelaziz lors de la fête de l'indépendance du pays, la monnaie mauritanienne a changé d'unité. À partir d'aujourd'hui, 10 oukiyas devient un oukiya. Un changement majeur qui pousse la Banque centrale de Mauritanie au retrait progressif sur le marché des anciens billets et pièces. Après avoir démenti les rumeurs de dévaluation de l'oukiya, la BCM assure qu'il conservera sa valeur et le pouvoir d'achat des citoyens ne s'en ressentirait pas. Son principal leitmotiv, protéger la monnaie nationale contre la falsification en la remplaçant par des séries plus fortes et plus sûres. Les Mauritaniens se rendent donc dès aujourd'hui au guichet des banques pour échanger leurs anciens ougias contre de nouveaux. L'ougia a perdu ces derniers mois de sa valeur au marché noir face à l'euro et au dollar, mais la tendance s'est aggravée depuis en raison d'une hausse de la demande de devises.
La secrétaire générale de la francophonie a dénoncé des attaques inqualifiables et désolantes contre des fidèles et des citoyens en République démocratique du Congo, exhortant les autorités de ce pays à garantir le droit de manifester. Les attaques lancées contre des fidèles rassemblés dans des lieux de culte et contre des citoyens voulant que tout soit mis en œuvre pour préparer sereinement la tenue d'élections crédibles en RDC sont inqualifiables et désolantes, a déclaré Michael Jean dans un communiqué. 8 personnes ont trouvé la mort hier dans ces manifestations. Le président camerounais Paul Biya a déclaré lors de son discours de Nouvel An qu'il était de son devoir de veiller à l'ordre républicain alors que le pays est en proie à une grave crise séparatiste dans les deux régions anglophones du pays. Des membres de la minorité anglophone du pays, environ 20% des 23 millions d'habitants, protestent contre sa marginalisation depuis plus d'un an. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, d'autres réclament la partition du Cameroun, deux scénarios que refuse catégoriquement Yaoundé. Plusieurs personnes, y compris des membres des forces de sécurité, ont perdu la vie dans ces régions ces dernières semaines. Le président tchadien Idriss Déby Itno annonce la tenue d'élections législatives pour cette année. Ce scrutin était prévu depuis 2015, mais a été repoussé plusieurs fois. Cette échéance électorale majeure, qui est attendue par toute la classe politique tchadienne, sera sans nul doute un moment de grande ferveur politique, a ajouté le chef de l'État. En février dernier, les élections ont été repoussées au dernier moment par le président Déby, évoquant des difficultés financières. Deux chrétiens égyptiens ont été tués dans une attaque armée pendant la soirée du Nouvel An près du Caire. Les victimes étaient des amis du propriétaire d'un magasin de boissons situé dans un quartier à l'ouest de la capitale égyptienne. Les enquêtes sont en cours, notamment l'examen des caméras de surveillance et l'interrogation des témoins. La vente d'alcool est étroitement encadrée en Égypte. Seuls certains magasins spécialisés ainsi que quelques débits de boissons sont autorisés à le distribuer au public.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François invite les fidèles catholiques à prier pour un avenir de paix en 2018, y compris pour les migrants et réfugiés, à l'occasion de sa première bénédiction de l'Angélus cette année, évoquant le sort tragique des migrants prêts à risquer leur vie pour s'assurer cet avenir de paix qui est en droit pour tous. Le pape a rappelé qu'il était important que tous s'engagent à leur assurer cet avenir. Le président américain Donald Trump menace de supprimer l'aide fournie au Pakistan. Dans son premier tweet de l'année 2018, il a indiqué que les États-Unis ont bêtement donné 33 milliards de dollars au Pakistan ces 15 dernières années et ils ne nous ont rien donné en retour si ce n'est des mensonges et de la duplicité, prenant nos dirigeants pour des idiots. Ils abritent des terroristes que nous chassons en Afghanistan sans grande aide et c'est fini tout cela, a lancé Donald Trump. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a averti Washington qu'il avait le bouton nucléaire à sa portée. Il a néanmoins tendu la main à Séoul, évoquant une possibilité de dialogue et de participation aux JO de Corée du Sud. Dans son adresse de Nouvel An, le numéro 1 nord-coréen a conservé une attitude de défi après une année de tensions croissantes provoquées par la multiplication par Pyongyang des tirs de missiles balistiques. 12 personnes ont été tuées depuis le début, il y a 5 jours, des protestations antigouvernementales en Iran. Bagassi Kora, ces manifestations ont été, nous dit-on, suscitées par des difficultés économiques.
Oui, depuis jeudi, des manifestants descendent dans les rues du pays contre la vie chère et contre le pouvoir. Ce dimanche soir, 2 personnes ont été tuées et d'autres blessées à Izé lorsqu'ils ont voulu manifester comme ailleurs dans le pays. « Je ne sais pas si les tirs provenaient des forces de l'ordre ou des manifestants », a dit un député local cité par l'AFP. Toujours dimanche soir, 2 autres personnes ont péri dans la ville de Dorud, dans l'ouest du pays, dans un incendie lié indirectement aux manifestations. 2 autres personnes ont été tuées samedi soir dans cette même ville, mais le vice-gouverneur de la province avait affirmé que les forces de l'ordre, les violences de dimanche soir ont eu lieu malgré un appel du président Hassan Rouhani au calme. L'Iran a de son côté dénoncé les ingérences des États-Unis dans ses affaires. Le président Trump a en effet apporté son soutien aux manifestants via Twitter.
Un tribunal militaire israélien a inculpé une Palestinienne après une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, la montrant en train de frapper avec sa cousine deux soldats israéliens en Cisjordanie occupée. Dans une vidéo filmée avec un téléphone portable le 15 décembre, on les voit donc frapper, donner des coups de pied et des poings, des gifles dans le village de Nabi Saleh. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on retrouve Bagassi Koura à nouveau. Cette fois-ci, c'est pour la Minute Éco.
Le gouvernement congolais a présenté la semaine dernière le projet de loi de finances 2018 avec des dépenses en baisse de 7,6% après avoir réduit le budget 2017 de 44%. Le Conseil des ministres a adopté le 27 décembre le budget 2018 qui atteint 1603 milliards de francs CFA en recettes et 1384 milliards de francs en dépenses. Ce projet de loi des finances 2018 prévoit de réaliser un excédent budgétaire chiffré à plus de 200 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le premier centre incubateur, dont le bâtiment a coûté 350 millions de francs CFA, va ouvrir ses portes à Abidjan au premier trimestre de cette année, a indiqué le ministre ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarasouba, cité par Fraternité Matin. Ce centre incubateur va permettre aux porteurs de projets et aux entreprises en quête de performance d'avoir des connaissances nécessaires afin de poursuivre leurs activités. Comment se sont comportées les bourses africaines l'année dernière? Eh bien, en 2017, la plupart des actions ont connu une évolution positive, à l'exception de la Bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest, qui concerne les entreprises dans la zone UEMOA. Selon Jeune Afrique, la BRVM, basée à Abidjan, a connu un recul de 20% au 27 décembre, après avoir chuté de plus de 9% en 2016.
Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane et bonsoir à tous.
Bienvenue dans ce studio pour cette page des sports. Alors, Ahmed est la personnalité sportive de l'année.
Abdourahmane, c'est le choix du groupe All Africa Global Media, basé à Washington. D'après ce groupe, le Malgache est récompensé pour les initiatives déjà menées depuis son arrivée à la tête de la CAF, notamment la réforme des compétitions majeures dans la CAN, l'organisation du symposium de Rabat, mais surtout l'aide financière accordée aux pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. La Sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, a été honorée du trophée Pride of Africa pour sa contribution au développement du football sur le continent et partout dans le monde.
Parlons transfert. Le mercato d'hiver s'est ouvert aujourd'hui et Sambasso a décidé de prolonger avec le Dynamo de Moscou.
Visiblement, l'international malien se sent bien dans la capitale russe. Arrivé l'été dernier au Dynamo Moscou en provenance de Kayserispor, Sambasso y est déjà un pilier. 6 mois après, l'ancien milieu de terrain de Lens, 28 ans, a donc paraffé un nouveau contrat selon l'équipe.
Le Sénégalais Karamboch, lui, est indécis pour le moment.
Je ne sais pas si je vais terminer la saison ici, a affirmé le défenseur international sénégalais qui connaît une saison mouvementée avec Anderlecht. La cause, des blessures notamment au talon d'Achille. Le contrat de Karamboj court jusqu'en juin 2020 avec les Mauves, mais le Lion de la Teranga n'exclut pas un départ cet hiver.
Et puis Liverpool qui gagne sur le fil à Burnley.
Tout à fait, Abdourahmane, à l'absence de l'Égyptien Mohamed Salah et du Brésilien Philippe Coutinho, blessé, les Reds ont décroché à la 94e minute une victoire précieuse contre une des équipes surprises du début de saison. Un but en toute fin de rencontre du défenseur Ragnar Klavan a sauvé Liverpool du nul, car entre-temps, Burnley a égalisé à la 87e. À noter l'ouverture du score signé le 7e du Sénégalais Sadio Mané à la 60e. Dans les autres rencontres, Leicester a renoué avec la victoire après deux défaites en infligeant un 3-0 promu en défilé, tandis que Newcastle est allé gagner à Stoke 1-0.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. En République démocratique du Congo, les habitants de Lubumbashi sont inquiets de la détérioration très avancée de la voirie urbaine. Pendant cette période pluvieuse, les nids de poules et les flaques d'eau perturbent la circulation. Résultat, les propriétaires de véhicules sont contraints de payer plusieurs taxes au trésor public et doivent faire face aux barricades érigées sur les routes et au recouvrement forcé des taxes. Narval Mabila.
C'est lui qui a des yeux pour voir, a fait un constat chaque jour qui passe. La voirie urbaine de la ville de Lubumbashi se détériore de plus en plus, et cela aux plusieurs endroits du centre-ville. Avenues, chaussées, boulevards sont affectés, rendant ainsi les transports difficiles, car les nids des poules sont au rendez-vous à plusieurs endroits pendant cette période pluvieuse. Là, nous sommes sur la chaussée de Kasenga au quartier Bel Air Mukala Kimuchi, où la chaussée est presque impraticable, car l'un est usager de la route, il est à notre micro à bord de son véhicule, et cela fait débat.
Bon, la route est tellement impraticable, hein. Vous ne voyez pas les nids des poules partout. Le nid des poules, c'est partout. C'est dû à la pluie. Vous savez que le nid de la route, c'est la pluie. Nous sommes pendant la saison pluvieuse, mais le tard, ils ne savent quoi faire. Nous payons les taxes. Il y a plusieurs taxes. Il y a la patente que nous payons. Il y a le vignette, le contrôle technique. Il y a plusieurs taxes que l'État a créées dans le but de pouvoir arranger la route. Mais jusque-là, la route est tellement impraticable. Ce n'est pas toujours ici, presque sur toute l'étendue de la République.
Même situation dans la commune Katouba, sur les boulevards Katouba, où nous avons croisé M. Lievin Kamwanga, qui revient sur la détérioration de la route.
Il y a un problème. Au niveau de la rivière, là, la route est coupée. Et les gens ne savent pas bien se déplacer, puisque quand il y a la pluie, ils n'acceptent pas d'accéder à Katouba. Ils s'arrêtent au niveau Mampala pour prendre les gens par là et rentrer en ville. Il y a un problème qu'on doit résoudre. Et puis la route qui va de la Katouba vers la Kenya, au niveau du marché, la route est en train de se corroder. Il y a des petits problèmes à ranger. Les transports font problème quand il y a la pluie. Le problème des tranchées, le problème des petits trous qu'on n'arrange pas rapidement, et finalement ça devient un problème.
De retour au centre-ville, au croisement de l'avenue Moro et Kapenda, un chauffeur de taxi fait son constat.
On est en train de détruire notre véhicule, on abîme les véhicules de temps en temps. Ce n'est pas bien. En tout cas, on est en train de regretter notre gouvernement parce qu'on est en train de payer. On paye des vignettes, on paye tout ce qu'on peut demander, on paye même. Pour ranger la route, vraiment, c'est compliqué. Quand il pleut comme ça, on ouvre même les installations sanitaires. Ça nous embête vraiment en ville, vraiment. À l'époque de Moïse, on ne voyait pas ces désordres comme ça. Les gens même se plaignent que non, Moïse, en tout cas, il était un monsieur.
Face à cette situation de la détérioration de la voie urbaine, nous avons joint le gouverneur Pande Kapopo par téléphone et son ministre des infrastructures Nazem Nazembe et son directeur provincial de l'office de voirie et drainage. Ils se sont réservés de tout commentaire que cache leur silence. Et notre constat est que le tronçon de l'avenue Kamagnola est en réhabilitation parce que le président Joseph Kabila y passera pour inaugurer la réhabilitation du building administratif de la Générale des Carrières et des Mines. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, la précarité s'accroît de plus en plus au sein des couches vulnérables. Le constat est du gouvernement camerounais et parmi les couches les plus touchées, il y a les personnes handicapées. Mais certains ne baissent pas les bras et se battent pour être actives et autonomes. C'est le cas des femmes handicapées de Handicap Home à Yaoundé. Reportage sur place, Emmanuel Jultab.
C'est au lieu dit Escale Mangué qu'est implanté Handicap Home. Une vingtaine de femmes handicapées formées à divers métiers ont été regroupées sur le site. Marie-Crescence Epi vit avec un handicap. Elle est aussi déléguée de Handicap Home à Yaoundé.
Papa Roger Mila nous a offert 16 ateliers. On ne paie ni loyer, ni courant. Nous sommes libres nous-mêmes. On travaille selon les commandes.
Ces femmes handicapées occupent des conteneurs soigneusement aménagés en salon de coiffure, restaurant boutique, atelier d'artisanat et de couture. Corinne et Christelle, les deux plus jeunes de l'atelier de couture, reviennent de loin.
Comme moi, je reste au quartier, donc je ne savais pas là où je devais faire ma couture. La petite couture, là, donc, ça m'aide à gérer mes petites choses que j'en ai besoin.
L'ambassadeur itinérant Roger Mila, il nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait On a donc dit qu'on voulait un site pour s'installer, pour pouvoir travailler. Je résous mes problèmes par rapport à cette structure. C'est un peu comme quand j'étais à la maison.
L'on en dirait autant de Monique qui, béquille aux aisselles, coiffe à merveille et forme des personnes valides et invalides depuis 5 ans à la coiffure.
Présentement, j'ai 3 qui suivent la formation. Je suis autonome, je me sens à l'aise. Je fais dans la coiffure, je fais même l'esthétique. Quand les gens viennent, ils me payent.
Au Cameroun, les enfants en détresse, les personnes âgées, les handicapés sont considérés comme des couches vulnérables. L'ex-footballeur international Albert Ojemila s'est mis aux côtés de cette catégorie de Camerounais à travers sa fondation Cœur d'Afrique. Jean Keller Côté, directeur de projet de la fondation Cœur Afrique.
Nous allons au-delà de ce que fait le ministère des Affaires sociales. Nous avons une grosse composante orphelins enfants vulnérables. Nous avons une composante enfants de la rue. Nous avons les personnes âgées. Nous avons une importante composante de personnes handicapées. Nous avons de façon spécifique les anciens sportifs en situation de vulnérabilité que nous accompagnons.
Il reste que le nombre de personnes vulnérables en attente d'assistance au Cameroun est de plus en plus croissant. Le gouvernement dit s'en préoccuper, mais sous certaines conditions. Henri Yambi Troadikoso, directeur de la Solidarité nationale, au ministère des Affaires sociales du Cameroun.
Quelle que soit la nature de l'aide qu'on sollicite, adresser sa demande à une de nos unités techniques opérationnelles ou directement à la commune de résidence et attendre que la demande puisse être examinée dans le cadre d'un comité local d'attribution des aides.
Une démarche qui, pour certains Camerounais, est de nature à accroître davantage la vulnérabilité des couches vulnérables du pays. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burundi, le prix de l'électricité a doublé pour tous les habitants. Soudeurs, électriciens et autres petits gens demandent au gouvernement de revenir aux anciens tarifs car ils travaillent désormais à perte. Le Burundi produit 40 mégawatts pour un potentiel estimé à plus de 1500 mégawatts. Reportage à Bujumbura de Christophe Kourounziza.
6e avenue du quartier de Bouyenzi au centre-ville de Bujumbura. Il est 10h GMT quand un technicien est en train de souder juste à côté de la rue. La hausse du prix de l'électricité fait considérablement fuir les clients car le prix a augmenté même pour les constructeurs de petites portes ou de petites fenêtres en fer. Témoignage de cet électricien.
Si par exemple une porte pour le construire, ça demande au moins 15 000. Et si je le dis... Non, il y a au moins les hausses de prix des courants. Je lui dis au moins 50 000. Il dit non. Là, c'est beaucoup. Il va laisser pour aller faire la construction des matériels de bois.
Donc, il y a des conséquences dans votre travail de tous les jours.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Ce garagiste estime, quant à lui, que dans un futur proche, ça sera un sérieux problème entre clients et garagistes, car il est difficile de parler d'une même voix, les intérêts divergents.
Si les francs, c'est quoi tout le monde?
Avant, on payait pour les 150 kWh 13 000 francs, mais aujourd'hui, nous payons 3 fois plus. C'est un sérieux problème pour nous. Avant, on faisait payer une baguette pour souder 500 francs. Aujourd'hui, nous demandons aux clients de payer 2 000 francs à cause de cette hausse des prix de l'électricité. On ne gagne presque rien. Nous demanderions de revenir aux anciens tarifs, car ça serait mieux. Par exemple, un appareil où on soudait par 5 000 francs, aujourd'hui, nous demandons 10 000 et les clients n'acceptent pas ce prix. Ça devient un sérieux problème, car il n'y a pas d'entente entre les clients et nous, les soudeurs.
Pour l'économiste Faustin Dikoumana, ces nouveaux tarifs prouvent le manque de vision de politique de développement économique et de mauvaise gestion du secteur énergétique. Il indique que le Burundi vient de faire plus de 30 ans sans construire un seul barrage énergétique. Il estime aussi qu'il n'y a pas eu de modernisation proportionnelle à la demande. Ce juriste qui a requis l'anonymat ne mâche pas ses mots en disant que le pays s'enfonce dans une crise sans précédent.
Non, c'est la catastrophe. Vous parlez de la hausse de l'électricité, mais c'est la hausse de tous les produits. S'agissant de l'électricité, dès que vous contactez ces gens qui ont besoin de l'électricité pour la soudure, qui ont besoin de l'été pour la conservation des produits comestibles, c'est la catastrophe. Ils ne peuvent plus rentrer dans l'œuvre. Tous les produits, ça monte à cause de cela. Les ménages ne mangent plus 2 fois par jour. C'est vraiment la catastrophe. Si le décideur ne fait rien, on va tout droit dans le gouffre.
Bien de spécialistes affirment que les produits comme les panneaux solaires sont indisponibles et que dans les autres pays de la région, ces produits ne sont plus taxés. Il est à signaler également que le Burundi ne produit qu'un 40e du potentiel électrique total. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, deux étudiants ont créé une poubelle technologique qui allie intelligence et écologie. Ces étudiants voulaient au départ créer une bande dessinée, mais au fil des années et des concours, ils ont changé de cap. Reportage à Dakar, Sidina Abagay.
Tout est parti du concours dénommé les 55 heures de la francophonie dédié à l'innovation numérique, une compétition au cours de laquelle l'idée de Mbalit a vu le jour. Alun Badar Meng, 19 ans, étudiant en multimédia, détaille le processus de création de Mbalit.
On était amené à réfléchir sur la problématique de l'environnement au Sénégal et on devait chercher une solution au problème de la gestion des déchets. Donc on a fait un constat, c'est que le principal problème de la gestion des déchets ici, c'est qu'il n'y a pas de notion de tri. Les gens ne savent pas trier leurs déchets. Du coup, on devait trouver une solution à ce problème. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire carrément une poubelle qui va parler aux gens. C'est là qu'est né Mbalit avec d'autres membres de l'équipe, notamment Ousmane qui est automaticien, Mireille Chango et Ouri Diallo qui sont les développeurs.
Mbalit est donc un bac à ordures qui permettra de gérer les déchets plus facilement avec une technologie accessible à tous, comme l'explique Alune.
Donc Mbalit, c'est un dispositif électronique déjà, une poubelle physique en même temps. Lorsqu'on se présente devant l'appareil, il se met en marche et commence à vous parler littéralement en français puis en langue locale pour vous expliquer comment trier vos déchets. Donc cela permet non seulement d'introduire cette première étape de tri, mais aussi nous récupérons un ensemble de données qui permettent d'avoir une meilleure vision globale de l'environnement, mais aussi de faciliter le travail des gens qui sont en charge de la gestion et la collecte des déchets.
Pour financer et développer leur projet, les promoteurs de Mbalit misent avant tout sur leurs propres moyens, comme l'affirme Papa Elhaji Mandiaye Ning, 20 ans, étudiant en architecture.
Je vais préciser qu'on a eu à créer une start-up de design qui nous permettrait d'avoir des fonds pour financer les différents prototypes. Donc en ce moment, on a de quoi financer quelques prototypes. Et vu que selon notre business model, on a besoin d'avoir d'abord les clients pour ensuite produire, donc on n'a pas besoin d'avoir un grand financement qui va nous permettre de produire en masse avant de trouver des clients.
Les promoteurs de Mbalit veulent commencer la commercialisation de leur poubelle intelligente en 2018 au Sénégal et en 2020 dans d'autres pays d'Afrique. Pour ces étapes, ils espèrent bénéficier d'un financement conséquent afin de procéder à une production à grande échelle et ainsi minimiser les coûts de fabrication. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Le titre Amulanga de Magic System pour vous souhaiter une excellente année 2018 sur VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Elle a été réalisée par Sim Souloumami à la présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.